Salut à tous, bienvenue pour On se dit des choses, le podcast des sports. La musique funky a un peu changé, mais elle est toujours là. C'est notre marque de fabrique parce qu'on est funky. Bienvenue pour un nouvel épisode, un épisode plein de détente, de soulagement. Parce que au même endroit, il y a quelques jours, je n'avais que des garçons qui faisaient de l'huile autour de moi. Une bonne citerne à E4. Et aujourd'hui, on respire. Je vais commencer par les présentations de gauche à droite. L'espoir du Lot-et-Garonne est parmi nous, c'est... l'inimitable Greg Lothor. Salut Greg.
Bonjour et bonjour à tous ceux qui seront en top 14 la saison prochaine.
Il y en a quelques-uns, paraît-il. Juste à côté de vous, le pape du Big Bill, Christian Saint-Pé. Tu es là, bonjour Christian.
Anishat à toutes, c'est Agour Chibiroa et bonjour à ceux qui disputent un barrage ce week-end.
Oui, ils sont dans nos cœurs. Le king de la ficelle, le roi du swoosh qui nous rentre de Dordogne, les petits yeux fatigués, c'est Jean Fauré. Salut Jean.
Salut tout le monde et bravo à la section qui est championne de France donc apparemment.
Oui, c'est ça, championne de France de la 12e place. Ah, et à côté de vous, celui grâce à qui ce miracle est arrivé, c'est Jérôme Carrère. Salut Jérôme.
Bonjour le Béarn, bonjour la Soule et bonjour le Hameau.
Et merci pour eux. Pour commencer, on a un choix de roi, on peut faire à peu près ce qu'on veut, mais je vais commencer par l'actu la plus brûlante, c'est Christian qui la porte. Toute chaude de sa plancha, c'est le Pau FC dont il s'agit. On a appris il y a quelques minutes, quelques secondes, Didier Tolo prolongé officiellement au Pau FC. Bon, on ne va pas dire que c'est une surprise, on n'ira pas jusque-là. Pourquoi on a tant attendu, Christian, pour avoir cette réponse, cette confirmation?
Alors, au niveau du timing, il faudrait s'adresser plus précisément au club, mais c'est vrai que ça fait quand même quasiment aucun doute depuis... plusieurs semaines que Didier Tolo va rempiler donc au niveau du club. Alors il y a plusieurs raisons surtout qui expliquent le fait qu'il a laissé une porte entrouverte. On l'a expliqué dans nos colonnes. Il y avait donc d'une part l'occasion de se manifester auprès des Girondins. Coucou, je suis là s'il faut. Je suis pas forcément lié à Pau puisqu'il y avait une clause libératoire en cas de sollicitation par un club de Ligue 1. Il y avait aussi la volonté d'obtenir des garanties au niveau du club pour ne pas repartir de zéro, pour avoir à la fois une forme de continuité au niveau sportif, au niveau de l'effectif, et puis pour également bénéficier d'infrastructures qui se développent. Et il y a un rendez-vous avec François Bayrou qui a visiblement porté ses fruits pour que Pau dispose d'un centre d'entraînement à très court terme.
Et du coup, il revient à Pau avec son petit post-it, avec une liste de joueurs dessus, parce qu'il faut avancer sur l'effectif, mine de rien. Reprise du championnat le 24 juillet prochain, je le rappelle.
Absolument, et reprise d'ailleurs de l'entraînement vendredi prochain, le 18. Selon les infos qu'on peut avoir, mais c'est pas du tout officiel, mais apparemment pas mal de joueurs seront encore là l'an prochain. En tout cas, le club a annoncé dans un communiqué ce jeudi qu'il y aurait un effectif donc complémentaire et compétitif.
Et pour le football, le grand Camoulox continue, parce que donc on a dit la reprise le 18, reprise du championnat le 24 juillet, mais par contre, pas de diffuseur. Je peux déjà vous livrer une info, ce ne sera pas sur la République des Pyrénées.fr. La Ligue 2 et la Ligue 1 aussi, d'ailleurs.
J'aurais bien vu qu'il soit au commentaire. Funky,
mais oui, il va peut-être commenter sur le futur diffuseur.
Défaite 4-2, ils sont qualifiés.
Oui, toujours pas de diffuseur, donc toujours pas le montant du chèque, donc toujours pas le budget, donc on ne sait pas combien on va dépenser donc, dans le football français.
C'est absolument. Donc Pau sort d'un budget à 6,5 millions avec un déficit de 900 000 euros concernant justement ces fameux droits télé. Alors ce qu'on peut savoir, c'est que Bernard Portefraye va mettre la main à la poche pour pouvoir repartir en Ligue 2. Au niveau budget, ils repartent à minima avec 6,5 millions en espérant pouvoir le développer. Mais ça va être conditionné par donc l'arrivée éventuelle de nouveaux partenaires.
Des nouveaux partenaires, ça c'est le gimmick un peu, c'est le feuilleton de ce printemps. Ça m'amène à me tourner vers toi naturellement, Jean. Des nouveaux partenaires, parce que là, c'est une des infos du week-end. L'élan est officiellement maintenu. À 3 journées de la fin, on l'a dit, c'est carrément... une perf.
Un exploit. Une belle perf.
Ouais, on n'aurait pas misé dessus, on va dire ça. Du coup, maintenant, l'horizon s'est dégagé. Les choses vont pouvoir avancer sereinement. Donc, une question en deux temps, parce que j'aime bien faire des intros longues dont on oublie le début quand j'arrive à la fin.
Donc, avec une réponse courte.
C'est ça. 5 secondes minimum. Donc, le soulagement, évidemment.
Douche comprise. Oui, le soulagement, évidemment. Après, si vous vous rappelez bien, lors d'un podcast précédent, je vous avais dit que l'élan était en mesure de remporter ses 7 derniers matchs. C'est au moment de l'ASVEL et de Nanterre, après ces défaites-là. Ils en sont à 5, il en reste 2. Donc effectivement, ils peuvent faire le clean sheet, finir par un 7-7. Donc oui, gros soulagement depuis Limoges. Jeudi dernier, c'était Limoges, il y a eu la victoire avec la manière. Donc déjà, c'était le maintien à 90%. Il a été validé face à Chalon, samedi, au Palais. Donc là, gros soulagement. Décompression, oui, forcément, on l'a vu hier soir à Boulazac.
Ouais, mais pas tant que ça, ils veulent gagner.
Non, mais décompression dans la mesure où les joueurs, ils étaient contents de se retrouver, ils ont fait un bon petit repas, l'échauffement, ça déconnait. Ils étaient concentrés. Une fois que le match a débuté, d'ailleurs, 31-14 au bout de 10 minutes, ça a été limpide. Ils ont joué sérieux et ils sont arrivés à leur objectif, c'était gagner sans se faire trop peur. Donc, ils sont pas rassasiés, ils veulent finir gagner samedi pour le dernier match à domicile. Face à Cholet, puis aller faire un pet à Gravelines et mardi prochain.
Ça va être des sacrés arbitres de la fin de saison, parce que Gravelines, on parlait de gens qui font de l'huile tout à l'heure, il y a l'huile du Nord-Pas-de-Calais qui est en train d'être une marque déposée.
Oui, l'huile d'Opale.
L'huile d'Opale. On appelle ça. Parce que le BCM, mine de rien, a le canon sur la tempe.
Ouais, ils ont 11 victoires, c'est plutôt derrière, donc ça coince, c'est Chalon-sur-Saône qui jouait un peu une finale hier soir à Rouen, ils ont perdu. Donc Chalon, il leur reste deux matchs, Dijon et Orléans de mémoire, il faut qu'ils gagnent les deux. Quant à Gravelines, ils risquent de perdre le prochain puisqu'ils jouent, je crois, à l'Asvel ou Monaco, un des deux. Et le dernier match, c'est face à l'Élan. Donc, et si l'Élan joue l'arbitre à Gravelines, ils vont pas y aller en tong, parce que je crois savoir que Eric Bartichecki aimerait bien leur jouer un petit tour. Si c'était une finale pour Gravelines, si l'Élan peut les envoyer en Pro B, il se gênera pas.
Vous avez lâché le mot Bartichecki. Parce que, oui, comme le PFC juste avant, la question du coach va se poser, la question de l'avenir va se poser. Est-ce que le dossier est déjà ouvert ?
Il est ouvert, mais ils attendaient que le dossier soit finalisé du côté du PFC pour pas faire de l'ombre à Christian. Mais oui, le dossier est évidemment ouvert. Bartichecki qui est revenu par la petite porte un petit peu, qui s'est demandé ce qu'il foutait là dès le premier match face à Rouen, et il nous l'a dit la semaine dernière, qui s'interrogeait après le moins 21. Et depuis qu'il est là, donc forcément 11 victoires en 18 matchs, je crois, 11 sur 18. Le plan des repreneurs américains au départ, c'était absolument pas de le conserver, puisque eux, dans leur volonté de grandeur, c'était soit un coach étranger, soit éventuellement un coach estampillé Euroleague ou de renommée. En France, il n'y en a pas 50, on peut penser à Vincent Collet. À part lui, j'en vois pas. Mais vu le résultat récent, forcément, Bartichecki a marqué des points. Des discussions sont engagées. Et je pense qu'on devrait arriver à une bonne nouvelle d'ici peu. C'est-à-dire une bonne nouvelle, le maintien d'Eric Bartichecki, je pense que c'est dans les tuyaux, et ça devrait être officialisé dans les jours qui viennent.
Suspense. Je change de terrain, et je me tourne vers les deux gonzes à mon environnement immédiat. Ce miracle au hameau, Jérôme, vous avez fait un malaise samedi soir, hein, vous êtes évanoui.
Agal,
vous n'avez pas tout vu. Greg, vous étiez les yeux bien ouverts. Quelle émotion, j'allais dire, mais vraiment, ils ont frôlé la catastrophe.
Ils ont frôlé la catastrophe. C'était à la 80e, ils étaient relégables. Et puis il y a eu cet essai dans les arrêts de jeu de Matt Philippe qui est arrivé en décembre, on s'en souvient, qui a pas fait le déplacement pour rien, avec ce maître coup de pied de Clovis Lebail pour trouver Tomoa Manou. C'était une action assez symbolique aussi quand même, mine de rien, de tout ce qu'a prôné le nouveau staff à son arrivée. Geoffrey Lannepetit à Bayonne, vous l'avez dit, on se sauvera par le jeu. Ils font deux bonus offensifs en fin d'année à Agen contre Montpellier. C'est deux points qui rapportent gros, qui permettent de doubler Bayonne sur le fil. Quand on sait que c'est une équipe qui n'avait pas marqué un seul bonus offensif depuis mai 2019, c'est qu'il y a aussi quelque chose qui s'est passé.
Et on a été à deux doigts d'avoir la tirade de Christian aussi, je le rappelle, parce que la semaine dernière, Rembobiné qui nous avait dit « Vous verrez ce... » C'est presque comme ça qu'il l'a dit. « Vous verrez ce bonus qu'ils n'ont pas pris contre le Racing. »
Mais là, non, mais là,
mais jusqu'à la 81e, il avait raison.
Jusqu'à la 81e, ils ont raison, mais dans les arrêts de jeu, il a eu tort. Ce qui est vraiment bien, c'est que c'est une victoire sur lequel ils vont pouvoir capitaliser, sur lequel ils vont vraiment pouvoir construire. Ça peut être un acte fondateur. Alors, c'est pas... Il y a eu un moment l'inquiétude de se dire, est-ce qu'on va pas changer les règles en cours du jeu ? Est-ce qu'on va pas sauver le 13e et Agen jouerait un barrage ? Je crois qu'on n'a rien pu construire là-dessus. Là, aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai espoir qui peut naître de ça. Alors, je vous vends pas le top 6 pour l'année prochaine. Je vous vends pas le Brennus place de la mairie.
Je crois que Sébastien Picoroni non plus, d'ailleurs.
Non plus. Et je pense que c'est preuve d'une lucidité et d'une intelligence remarquable. Alors, je dis pas ça pour moi, mais je dis ça pour lui. mais non, et le but de l'an prochain, c'est de faire 10e.
De l'humilité. Donc, c'est ce qu'on a vu aussi ce mercredi soir, au Hameau, où d'ailleurs la section à peine maintenue, elle a voulu tourner la page tout de suite. Trois jours après, fête avec les abonnés et les partenaires. Et on enlève 17, on officialise 17 départs, on officialise presque autant d'arrivées, ou autant d'arrivées d'ailleurs.
Ouais, c'est 19 départs, enfin, ça dépend si on compte Lucas Pointu ou pas dans les départs.
Lucas, apparemment, comment
il était pas compté. Ouais.
Connais, non.
C'est cruel parce qu'il a une bonne saison quand même.
Ouais, il fait une bonne saison.
Deux bonnes saisons même.
Et oui, cette volonté de tourner la page immédiatement, ça vous semble être le meilleur moyen d'avancer, Jérôme? Parce qu'il y a quand même une autocritique à faire.
L'autocritique, comme on disait tout à l'heure, quand on voit Sébastien Piccheroni, ce qu'il a commencé à dire, effectivement, il n'est pas du genre à dire on oublie tout ce qui s'est passé. Au contraire, il a même dit très clairement, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé, mais maintenant il faut repartir sur quelque chose d'autre. Après, au niveau de l'autocritique, c'est peut-être plus à la tête pensante de la faire éventuellement pour se dire qu'est-ce qui n'a pas été. Mais finalement, peut-être aussi que le choix d'engager Sébastien Piccheroni et Pierre Pérez, de partir sur un choix fort, de vraiment mettre les jeunes en avant. A priori, il va y avoir des annonces faites assez vite sur le centre de formation, le développement des infrastructures pour l'association section paloise également pour les plus jeunes. On sait qu'elle en manque cruellement, qu'en ce moment, niveau jeune, ces 2-3 dernières saisons, ça a été un peu plus compliqué. Donc vraiment, on sent quand même qu'aujourd'hui, il y a un vrai projet qui repart. Donc c'est pas pour ça qu'il faut effacer tout le reste, mais ce qui est sûr, c'est que Sébastien Piccheroni l'a fait avec intelligence, et je pense qu'ils ont eu raison de faire cette rencontre hier, parce que honnêtement, son discours, je crois qu'il est assez bien pensé. C'est-à-dire qu'il a parlé d'identité, on sait qu'ici c'est fort quand même en Berne, des marqueurs assez forts, de prendre des joueurs du coin. Et surtout, moi ce que j'ai apprécié énormément, c'est son projet basé sur un jeu intelligent, c'est pas plus mal, et surtout la rudesse. Ce qu'on oublie souvent ici, on est quand même à une terre paysanne. Une terre paysanne, je suis désolé, la rudesse, ça répond un peu. C'est bien les doubles sautés, mais au moment, on applaudira toujours plus des mêlés qui reculent, mon cher Vincent.
D'ailleurs, on a beaucoup applaudi Lorenz Adriaanse hier soir au Hamon.
Mais c'en est exactement le symbole, Lorenz Adriaanse. Voilà. Même si c'est un beau joueur techniquement et tout ça, pour un pilier, c'est un mec qui a des mains et tout. Mais je pense que ce qu'on a surtout.
C'est un combattant.
Ce qu'ont surtout aimé les supporters, c'est qu'il a cabossé quand même la plupart des piliers gauches du top 14.
Christian, vous les avez biberonnés pendant quelques saisons quand même, cette section paloise. De l'extérieur, qu'est-ce que vous en pensez de cette transition qui s'opère si vite? Bam, on tourne la page, on avance.
Oui, alors je voulais rebondir sur l'autocritique des têtes pensantes. Je vous avoue qu'il y avait une interview fort intéressante dans nos colonnes, pas plus tard qu'hier, avec le président Bernard Pondeneau et le directeur Pierre Lahore. Je vous avoue que j'étais un petit peu déçu au niveau du discours de Pierre Lahore, que j'ai trouvé un petit peu à l'eau de rose, c'est-à-dire que je trouvais qu'il minimisait pas mal certains points sur lesquels vous aviez appuyé, vous, Jérôme et Vincent, qui avez donc orchestré cette interview. Je pensais qu'il y aurait un peu plus justement d'humilité.
Sur quel point en particulier vous pensez qu'il...
Ah ben, il a minimisé par exemple les erreurs de casting, il vous a trouvé un peu sévère sur certaines questions, etc. Bon, je crois quand même qu'il ne faut pas oublier que les supporters ont été fort déçus cette saison, et pas que celle-ci, quoi. Très concrètement, c'est depuis donc que Simon Manix a fait un petit peu la saison de trop, qui n'a d'ailleurs pas terminé. Depuis, on voit bien que ce club rame avec à la base 25 millions d'euros en top 14. Bon, là ça baisse, puisqu'on parle de 21,5, si j'ai bien
c'est
lu,
ça,
pour la saison prochaine. Donc on peut quand même attendre à de meilleures performances. Et c'est vrai que je n'ai pas été surpris que Jean, tout à l'heure, nous sorte sa blague, est-ce que la section est championne de France. Et je trouvais que ça claironnait un petit peu au niveau de la direction, quoi.
Greg ne peut pas laisser passer.
Alors, je ne peux pas laisser passer ça. Non, mais si je puis me permettre, la section a le 11e budget du top 14, il termine 13e. Donc il y a finalement quelque chose de globalement assez logique dans ce qui s'est passé. Et ensuite, je pense, alors je ne vais pas me faire l'avocat de Pierre Lahore, il a les compétences pour le faire à ma place, mais je pense ce qu'ils veulent souligner, ça pour en avoir discuté avec Geoffrey Lannepetit, notamment l'entraîneur des trois quarts, c'est que on a l'impression de voir le recrutement tout en noir. L'essai de Matt Philippe qui est donné par Manu sur son aile, il y a eu peut-être cette saison finalement un recrutement plus efficace qu'on a l'air de le sentir, et que les jugements négatifs des années précédentes étaient contrebalancés par la justesse peut-être plus marquante cette saison.
Il y a quand même des chiffres, je crois qu'on peut s'adresser à Jérôme, puisqu'on en discutait il n'y a pas si longtemps. Il y a quand même pas mal de joueurs, une proportion de joueurs qui, à mon avis, est trop importante, qui n'ont quasiment pas joué quoi, cette saison.
C'est ça, Jérôme. Qui étaient arrivés les années précédentes.
Oui, non, mais
c'est l'héritage du passé qui est en train d'être soldé.
Cette année, après, il y a quand même eu, par exemple, Mike Harris ou Hugo Bonneval qui ont été des flops, mais ça peut arriver dans chaque mercato. Je suis d'accord que par rapport aux années précédentes, aux étés précédents, ça a été mieux cet été-là ou cette année-là. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a quand même une douzaine de joueurs sur 47 d'un effectif qui jouent le maintien en top 14, qui n'ont quasiment pas joué ou qui ont été mis au placard à un moment. Ça, c'est évidemment des questions qu'il faut se poser. Mais là où je suis d'accord, c'est vrai que c'est souvent des joueurs qui étaient là depuis 2-3 saisons. Et effectivement, cet été, c'était quand même un peu mieux. Donc, il faut espérer que pour l'année prochaine, le recrutement, il y a 15 nouveaux joueurs qui arrivent.
On n'a même pas évoqué Tuma, par exemple. Efficient.
Tu m'as pas qui a mis du temps aussi
qui a mis du temps, mais parce que voilà, il fallait construire quelque chose autour de lui. S'ils essaient sur les 6 derniers matchs, c'est quand même pas rien, mon cher Christian.
Tout à fait, mais je n'ai pas dit non plus qu'il y avait que des flops, c'est pas ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, simplement, encore une fois, par rapport à ce que disait Vincent tout à l'heure, donc il y a quand même une sorte d'optimisation qui peut être bien meilleure par rapport aux moyens financiers dont dispose de la section, même si son budget est à la baisse. Vous avez un club comme Brive qui dispose quand même d'un budget largement moindre et qui a fini devant la section cette saison.
Jean, vous pouvez en témoigner, c'est pas parce qu'on a un gros budget que forcément les erreurs de casting sont évitées. On l'a vu, je dis pas qu'ils ont un gros budget, mais cette année avec les Lens, ça a été quand même la saison des erreurs de casting sur certains postes. On en a vu des jolis.
Oui, après ils avaient quand même la 13e salariale.
Non, c'est pour ça que je dis que c'était pas une question de budget, plus une question de casting. Pour la saison prochaine, du coup, vous attendez un recrutement masterclass ?
Un recrutement 5 étoiles, monsieur. Je m'attends à un recrutement, oui, forcément pas masterclass, mais... Si, comme prévu, CSG reprend le club, le budget va passer à entre 7 et 8 millions à peu près. Ma salariale, je n'ai pas vraiment d'infos, mais on peut estimer que ce sera entre 1 million et 1 million 4 de ma salariale. Donc peut-être 50% de plus que cette année. Donc oui, il y aura du joueur référencé, il y aura du bon américain. Et puis surtout, si Eric Bartichecki est maintenu, il va essayer de garder cette cohésion. Voilà, parce que c'est une équipe de copains qui a plaisir à se retrouver sur le terrain, à l'entraînement, en dehors. Et donc ça, il veut le préserver. Donc ça passe par garder quand même aussi une ossature de joueurs. Je pense à...
Oui, qui est-ce qu'on garde ? Faites-nous la liste.
On garde qui ce contrat déjà. Jérémy Leloup, Gérald Ayahi. Il va y avoir le cas de Nicolas Dejong à régler, qui cette année était le plus gros salaire et qui lui reste 2 ans de contrat. Il a plus d'années de contrat que de genoux valides, en fait. Donc ça pourrait être assez compliqué. Donc ça va être un cas épineux à régler cet été. Et après, parmi les joueurs en place qu'il faudrait, à mon sens, faire l'effort de conserver, il y a évidemment le cas Peter Cornelli, qui cette année a explosé, qui n'était pas le plus gros salaire du club, mais qui est très convoité. On peut imaginer que l'ASVEL et Monaco soient sur les rangs, qui sont des équipes d'Euroleague, voire l'étranger. Lui ne cache pas qu'il a envie de partir aussi à NBA un jour. Pour rappel, il avait été drafté par Denver, donc Denver l'a toujours sous le coude. Donc Peter Cornelli, oui, mais il faudra faire un gros effort financier. Et ensuite, je pense à Justin Bibbins, qui, depuis son retour, prouve qu'il a largement les épaules du haut de son 1m72 pour tenir la baraque en JP Elite, quel que soit l'effectif autour de lui. Donc oui, Bibbins, je pense aussi à Amadi Ndiaye à l'intérieur, pivot sur 10-15 minutes en rotation. Là, il est dans le 5 majeur, mais avec un gros effectif en sortie de banc, qui joue pas, il sera toujours heureux et il donnera le max. Donc pour moi, c'est un joueur aussi à conserver.
Un papa aussi.
Est-ce que c'est pas aussi ça que va gagner l'élan, finalement, pouvoir regarder des joueurs plusieurs années, des bons joueurs aussi?
Oui, évidemment. Avec plus d'argent, on peut... ils vont pouvoir faire une proposition à Peter Cornelli. L'acceptera-t-il ou pas? Ça, c'est autre chose. Mais oui, avec plus d'argent, ben forcément, on peut fidéliser des joueurs, y compris étrangers.
Une question sur les jeunes que je vais vous poser un peu à tous, parce que ça va être aussi un gros enjeu de la saison prochaine, quel que soit le club. Il va falloir qu'ils s'affirment. Enfin, certains ont déjà commencé. Je pense à Le Bay qui fait la passe magnifique sur l'essai du maintien. Astoy, bien sûr, dans la saison, on l'a vu. Lucaré qui tient la baraque à la section paloise. Au Pau FC, ils ont été beaucoup plus discrets. Notamment, il y a Paul Méliande qu'on peut citer.
Oui, alors au Pau FC, ce qu'il faut noter, c'est que...
je reprendrai ma question juste après, vous inquiétez pas. Vas-y, Christian.
C'est très pénalisant cette saison, puisqu'en fait, vous avez l'équipe B, où sont appelés à jouer les jeunes du club, qui a été arrêté depuis octobre, alors que par exemple le championnat espoir de rugby a pu se terminer, ainsi que le championnat espoir de basket. Donc au niveau compétition, c'est quand même un énorme frein dans la progression des jeunes du club. Et effectivement, ils ont eu très peu de temps de jeu, que ce soit donc Paul Méliande ou Corentin Chaminade, pour ne citer qu'eux.
Formé où d'ailleurs, Chaminade ?
Du côté d'Agen, j'imagine.
Oui, c'est tout à fait.
Après, il y a pas mal de jeunes qui sont aussi partis un petit peu ces dernières saisons, parce qu'aussi la B est descendue.
Absolument. Voilà.
Ce qui n'a pas aidé non plus.
Exactement, Jérôme. J'allais le dire aussi, la B est descendue en Régional 1. L'objectif numéro 1, c'était de la faire remonter cette saison. Et là aussi, bon, la saison a été arrêtée en octobre. Donc ça fait un an de perdu, finalement. Hein. Et effectivement, c'est un sujet sur lequel les dirigeants vont devoir se pencher.
Créer le centre de formation, hein. Alors, oui,
ouais. Même pas encore. Là, pour l'instant, c'est le centre d'entraînement. C'est-à-dire, c'est un centre plutôt dédié à l'équipe 1, à l'équipe de Ligue 2. Le centre de formation va venir dans un second temps, mais c'est un...
Aujourd'hui, en fait, ils ont le droit de déposer un dossier. Le fait de s'être maintenu en Ligue 2 les autorise à déposer un dossier pour constituer un projet de centre de formation, un projet de centre de formation agréé.
C'est un dossier encore plus sur le long terme.
Jean, au Palais, je sais que CSG arrive avec un dossier qui accorde une large place à la jeunesse et à la formation. Le meilleur message à envoyer dès le départ, ça serait peut-être de bichonner les pépites existantes. Le plus évident, c'est Gérald Ayahi. Comment on va devoir gérer ce cas-là à l'élan?
Le cas Gérald Ayahi?
Oui.
Ah ben, il est sous contrat 3 ans.
Il a été un peu exposé cette année.
Oui,
il faut le responsabiliser davantage parce que le risque, c'est...
Ah, davantage, il est dans le 5 majeur depuis 6 matchs. Il joue. Non, il est responsabilisé. Oui, il sera amené à. Déjà cet été, il est en équipe de France U20. Il va s'étoffer encore. Il apprend beaucoup cette année. Il a énormément appris dans les bons et dans les mauvais moments. Hein, parce que cette saison, c'est l'équivalent de 3 saisons normales au niveau émotion et apprentissage. Donc oui, Gérald Ayahi va être responsabilisé. Mais au-delà de ça, effectivement, avec le CSG qui va miser gros sur la formation, ils ont le projet de pas de créer un centre de formation, il existe déjà, mais d'attirer les meilleurs jeunes européens et américains dès 15-16 ans pour les former à Pau, qui est l'identité de jeu des cadets, ensuite Espoir et équipe 1, pour créer aussi un business par rapport à ça. Donc on attend de voir les modalités, tout ça, mais ça fait partie, oui, du projet. Ce ne sera pas juste mettre de l'argent pour acheter des joueurs confirmés de 25 ou 30 ans. Il y aura un gros projet au niveau de la formation et d'attirer les meilleurs jeunes européens de 15-16 ans. Quoi.
Relancer un peu la machine, la pépinière et l'embernée. Au hameau, Jérôme, je vais commencer par vous. Là aussi, il y a une carte jeune énorme. Jean disait qu'il avait grandi de 3 ans, Gérald Ayahi, dans cette saison riche en émotions. J'ai envie de dire qu'à la section, ils ont grandi de 30 ans. Donc ils approchent la cinquantaine.
La section, c'est toujours x10 par rapport à l'élan.
C'est pour ça que je me permets cette petite...
C'est comme dans le public, comme dans les travées, presque. Pas tout à fait.
Oui, donc les jeunes, ils ont beaucoup appris cette saison. Est-ce qu'on peut en attendre? Ça va être dur pour eux d'encaisser ça, quoi. On peut leur souhaiter de repartir sur les mêmes bases.
Je ne sais pas si c'est si dur que ça pour eux. Est-ce qu'ils peuvent vivre pire que cette saison-là? Oui, à la rigueur, ils peuvent peut-être descendre la saison prochaine ou revivre la même chose. Mais aujourd'hui, quand même, ils ont pris un peu de moelle et un peu d'épaisseur aussi. J'en discutais avec Martin Puech qui me parlait notamment pour Astoy. C'est vrai que c'est un super joueur. Qui me disait qu'il a vachement progressé en stratégie notamment. C'est quand même des joueurs beaucoup plus étoffés aujourd'hui qui ont rajouté 20-25 matchs de top 14 au CV, avec en plus des fois le capitanat pour Lucaré par exemple. Pour Clovis Lebaille qui est passé deuxième dans la hiérarchie, voire des fois premier. Bon, mais voilà, ils ont vraiment eu des responsabilités à des postes clés en plus. Donc aujourd'hui, ils ont grandi. Franchement, je ne vois pas pourquoi la saison prochaine, ils repartiraient avec un peu de pression alors que... Je ne vois pas vraiment ce qui peut leur arriver de pire que cette année.
En fait, la pression, elle est presque sur le club qui va devoir maintenant réussir à les garder. Alors, on sait que Baptiste Pesentier est déjà courtisé. Il est sous contrat, mais on a vu avec l'exemple de Gaël Ficou que les contrats pouvaient se racheter. Thibaut Dobagna sera en fin de contrat la semaine prochaine. Quentin Lespiot également. Antoine Astoy, l'année prochaine, il a une clause libératoire. Il a été appelé pour préparer le tournoi destination. Il sera probablement pas loin de la tournée en Australie. Comment est-ce que ces joueurs-là vont se positionner par rapport au projet de la section paloise? À mon sens, les premières journées vont être cruciales pour l'avenir du club, parce que ça va démarrer par un bloc de 10 journées d'entrée de top 14. La section pourra se situer et les joueurs aussi se situeront par rapport à ça.
À tous les niveaux, ça va être... c'est vrai que la saison prochaine, honnêtement, ça va être assez crucial de bien partir, de bien démarrer, parce que bon, même financièrement, on sait que le Covid est passé par là. Alors Bernard Pondon nous a dit que pour lui, il fallait réinvestir de suite pour repartir sur une bonne dynamique. Mais si la section se plante comme il y a 2-3 ans, elle avait un gros trou dans ses comptes, est-ce qu'au bout d'un moment, ça ne va pas couiner un peu aussi? Et ces joueurs-là, forcément, si la section se bat chaque année pour la 12e place, ils ont beau aimer le maillot et le pic d'osso, à un moment donné, ils vont être amenés à partir ailleurs. Donc c'est à la section de leur montrer qu'ils peuvent éventuellement... être en équipe de France, pourquoi pas, et y rester en étant à Pau.
Les autres clubs aussi ont vu ce qui s'est passé du côté de la jeunesse paloise. On pense au Stade Toulousain qui suit Giovanni Abel-Kufner. Ce qu'ont réussi les jeunes cette année n'est pas neutre.
Et ce qui est sûr, c'est que Sébastien Piccheroni, en tout cas, veut énormément s'appuyer sur eux. Il le répète à l'envi qu'il y a un socle déjà présent à la section, que maintenant, il faut réussir un peu à magnifier tout ça, à l'enrober, à l'encadrer, pour essayer de faire quelque chose de mieux, évidemment.
En tout cas, il y a une épreuve qui... comme celle des poteaux, ils ne passeront pas. C'est celle du barrage.
C'est pour Thibaut Dobagna Hein, vous dites ça pour Thibaut Daubagnat?
Oui, pour Madame Daubagnat surtout, qu'on salue bien bas ici. C'est celle du barrage, l'épreuve du barrage, que petit luxe de fin de saison, on va pouvoir regarder de loin. Enfin, certains dans cette boutique, belle boutique qui est Pyrénées Presse, vont la regarder avec les dents très serrées. Comme on n'a pas de match à pronostiquer, je vais vous demander un petit regard sur ce match. Je vais commencer par Jean, qui est le plus biarrou d'entre nous, du moins fiscalement. Donc du coup, Jean, ton point de vue sur ce BO Aviron.
Allez, juste, si ça avait été BO section, je pense qu'il y avait carnage à l'horizon, il y aurait eu plus 50 pour la section. Alors que là, le BO Bayonne me semble beaucoup plus ouvert. Enfin, sur le papier, Bayonne, il n'y a pas photo. Mais vu l'historique entre les deux clubs et la difficulté des Bayonnais, ou cette complexe d'infériorité, je pense, qu'ils font par rapport au BO, j'ai l'impression que ça pourrait être un match acharné. Il faut voir sur la première mi-temps si Bayonne se détache rapidement, peut-être qu'il n'y aura pas photo, mais ça reste quand même, je pense, assez ouvert, hein, malgré tout, malgré le fait que Biarritz soit en Pro D2, mais vu qu'ils sont quand même miraculés avec ce qualif à Vannes, pourquoi pas, peut-être qu'ils vont jouer tous les ballons, se faire plaisir et inquiéter Bayonne.
Oui, puis Jérôme, il y a des pénibles à Biarritz, on pense à un certain Stéphane Armitage qu'on a vu à l'œuvre ici quelques saisons.
On l'a assez vu, oui, pour Basquico. Pour savoir. Et surtout, il a cette troisième ligne du BO qui est connue pour ça, pour beaucoup gratter les ballons. Maintenant, bon, je pense quand même que Bayonne a une marge au niveau effectif. On l'a assez vu avec la section, toutes les personnes qu'on a pu interroger qui ont un peu l'expérience, parce que vous imaginez bien qu'on avait commencé à préparer éventuellement ce barrage, comme on est quand même des mecs qui anticipons.
Oui,
ouais, anticipons, c'est bon. Je pense quand même que Bayonne, oui, a un effectif au-dessus, plus d'expérience, etc. Maintenant, au niveau de Biarritz, moi, je trouve que depuis quelques jours, c'est un peu trop calme. Ça me paraît un peu bizarre que le père Aldiger remonte pas tout le monde un peu plus. Donc, je crains un peu le gros traquenard quand même pour les Bayonnais.
Traquenard.
Moi, je veux dire carrément que, enfin, moi, je souhaite que l'Aviron se maintienne parce que je pense que c'est un club. Qui méritent de rester en top 14. Ils sont passés très près comme du maintien cette saison. C'est un club en plus qui est à la croisée des chemins avec des projets là qui sont en train d'aboutir. Il y a une tribune de face qui est terminée, il y a un centre d'entraînement qui jouxte le terrain d'honneur de Jean Daugé qui est un investissement important pour le club. Donc je pense que le Bino Griego mérite de raisonner encore la saison prochaine.
Et puis il y a un Joël Rey qui est surtout là-bas. Quoi.
Également. Et par rapport à toutes les phrases que...
Alors,
bien sûr les joueurs n'y sont pour rien, mais par rapport à toutes les phrases auxquelles on a pu avoir droit en Pro D2 cette saison avec le BO et ses dirigeants... Ben, moi, je ne vous cache pas que je serai ciel et blanc ce samedi.
Greg, je ne sais pas comment tu seras, parce que toi, normalement, tu y vas. Parce que là, j'explique tout. Ton dossier pour l'accréditation est à l'étude par un comité de relecture. Donc, tu as dû envoyer ton CV.
Alors, je pourrais vous dire que je préfère ne pas répondre à cette question. Finalement, je vais répondre quand même. Ça va être dur pour Biarritz, hein. Biarritz joue à l'extérieur quand même. Donc, normalement, leur stade résident, c'est Lille. C'est Aguilera, ça va être assez compliqué, je pense. En théorie, Bayonne est au-dessus. Après, Yannick Bru n'a jamais gagné le derby. L'équipe de top 14 ne s'est jamais maintenue depuis que l'Access Match existe. Donc et puis ça sera un match, ça sera vraiment un match à part, je crois, ça va être un sommet d'émotion, de tension. Et ça peut déboucher sur des cartons rouges, sur des gestes malheureux qui changent complètement la physionomie. Donc je crois vraiment à un match ouvert. Après, en valeur intrinsèque, je mettrai ma modeste paye sur l'Aviron Bayonnais.
Pour le coup, Aldiger, il a dit un truc un peu malin, c'est assez rare, donc on peut le souligner, sur le fait que le derby, c'est autre chose que du rugby. Donc comme tu dis, quand il peut se passer des trucs assez improbables, le père d'un joueur qui rentre sur le terrain pour se battre avec les autres.
ça serait vraiment très original.
On verrait pas ça, quoi. Bon, bah très bien. Bah, merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces analyses pointues dont vous êtes friands. Moi, je vous remercie. Je vous dis merci pour cette semaine. Merci pour ce maintien. Merci pour eux. Merci pour ce moment. La saison n'est pas tout à fait terminée, donc on va se retrouver quelques fois encore d'ici la fin juin, début juillet, par là. Et après, on s'octroiera nos 6 mois de vacances que notre contrat prévoit. Je vous souhaite un bon week-end, un bon derby, surtout à Potioka, qui nous écoute tous les soirs sur son tapis de course et qui sait de quoi je parle. Il sue un peu plus que d'habitude en ce moment. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'On se dit les choses. Salut, salut et bon match.